Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Saint-Georges, bienvenue à Nous le futur. J'espère que vous allez bien et on commence assez vite. Monsieur Pierre Flynn dans sa chanson disait « Marcher tout seul », mais c'est pas ça qui se passe ici à l'Université de Sherbrooke. Il y a un campement palestinien et j'ai avec moi Manu Roche-Pilotto qui va répondre à deux questions. C'est spontané, fait que j'ai pas tellement de temps parce que j'ai une émission préenregistrée. Fait qu'on a à peu près 5 minutes. Monsieur Pilotto, bonjour, merci d'être ici. Justement, j'aimerais ça savoir quel est le but du campement.
Oui, merci à vous pour l'invitation. Dans le fond, le but du campement, c'est vraiment que notre université soit ni silencieuse ni complice par rapport au génocide qui se passe en Palestine. Donc, on a transmis plusieurs revendications. D'abord, que l'université dénonce le génocide qui se passe actuellement et la complicité du gouvernement du Canada, notamment à travers la vente d'armes. Une autre revendication, c'est que l'université divulgue ses investissements, les rende publics et facilement accessibles, ses investissements et ses partenariats, afin qu'on s'assure que ben, il n'y a pas de partenariat avec des entreprises ou des entités problématiques qui profitent du génocide en Palestine ou qui aident à ce génocide-là. Et donc, s'il y avait ces partenariats-là, ben, qu'on y mette fin. Mm-hmm. Et que l'université aussi ait des mesures d'accueil spéciales pour les étudiants palestiniens, comme il y en a eu pour les étudiants ukrainiens. Et enfin, une revendication plus générale pour plus de démocratie et de transparence dans l'université, parce que on veut pas que ça se reproduise, des situations où des conseils d'administration vont faire des ententes avec des entreprises problématiques, parce que en ce moment, on est là pour la Palestine, mais on ne veut pas avoir à refaire un campement à chaque fois qu'il y a un nouvel enjeu avec lequel on n'est pas d'accord.
Donc, votre réponse était à la question « Quel est le but du campement? » Parce que j'ai vu qu'on a manqué 3-4 secondes au début. Là. Et puis, John, je sais qu'il y a déjà eu un partenariat avec Lockheed, une machine militaire états-unienne qui était ici. Puis actuellement, il y a Total. Mais on ne sait jamais, Total, c'est sûrement des liens avec l'armement. Peut-être pas avec la Palestine. J'espère que non. Et vous parliez de mesures pour aider les étudiants palestiniens. À quoi pensez-vous à ce moment-là, par exemple?
Bien, quelque chose de similaire qu'il y a eu pour les étudiants ukrainiens. Si on va sur le site de l'Université de Sherbrooke, il y a une page étudiants ukrainiens avec toutes les ressources puis certains programmes spéciaux d'aide pour ces étudiants-là. Donc, on aimerait qu'il y ait quelque chose de similaire pour rendre ça plus facile pour les étudiants qui veulent sortir de la bande de Gaza, puis pour ceux qui arrivent ici puis qui ont souvent des difficultés là, à repartir une nouvelle vie. Donc, voilà.
D'accord. Hier soir, vous étiez à une réunion avec l'université. Est-ce que vous avez des nouvelles sur le développement de ce qui se passe?
Oui, on a eu une deuxième réunion avec le rectorat de l'université et on est beaucoup plus satisfait qu'avec la première. On a vu un certain travail de la part de l'université, en tout cas une plus grande considération par rapport à nos revendications. Donc, ils nous ont écoutés, ils vont faire du travail de leur côté, voir qu'est-ce qui est possible pour eux de faire. Nous, pendant ce temps-là, on va continuer de se mobiliser, mais on espère avoir des retours positifs par rapport à nos revendications. Pour l'instant, on est assez confiants, le dialogue se passe bien.
D'accord. Je sais qu'à Montréal, des fois, on voit ça dans les nouvelles, qu'il y a une sorte de convergence entre Israéliens ou juifs, c'est la plupart du temps c'est pareil, mais c'est complexe comme orthodoxe. Juifs et palestiniens, mais je ne pense pas que ça existe ici. Hein? À Sherbrooke, j'ai eu un début de réponse tout à l'heure par un de vos amis. Là.
Ici, il n'y a pas une grande communauté palestinienne ni une grande communauté juive. Donc, on n'a pas de groupe de ce genre-là, du moins à ce que je sache. Mais
on le voit partout dans le monde, là, que c'est pas une question de religion, ce qui se passe actuellement, ni une question d'ethnicité, c'est une question d'impérialisme.
D'accord.
Et, okay. Voilà.
Je sais pas si vous savez que la ville de Sherbrooke a voté adopté une résolution pour le cessez-le-feu il y a à peu près un mois.
J'ai pas vu ça. C'est sûr que nous aussi, on est partisans d'un cessez-le-feu, mais selon nous, le génocide qui se passe en ce moment, la situation est tellement inégale, est tellement disproportionnée du côté de la violence commise sur le peuple palestinien que être pour la paix, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que nous, on prend clairement parti pour le peuple palestinien qui est en ce moment opprimé.
D'accord. Et puis, en parenthèse, Sherbrooke fait partie du réseau mondial des maires et mairesses pour la paix. Il y a un aspect pas clair. Là. Quand on va voir le site d'Hiroshima, on voit que Sherbrooke est là. Mais ici, quand on leur parle, c'est comme s'ils ont oublié. C'est une autre administration qui a choisi ça. Mais néanmoins, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là.
J'ai cru entendre qu'il ne l'était plus parce qu'il n'avait pas renouvelé. Mais donc, ça serait intéressant potentiellement, on en avait discuté en assemblée, d'aller à la mairie, d'aller discuter pour remettre ça sur la table.
Okay.
Ça pourrait être quelque chose qui va être fait.
D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Manu Ruchot-Pilotto. C'est tout le temps que nous avons. Alors, je vous souhaite une bonne journée, bonne chance avec le campement.
Merci à vous.
Et pour la paix présente et future, ici.
Bien sûr.
Alors, moi, je continue. J'ai un autre 5 minutes avant d'enclencher avec le professeur Cornette, sa deuxième entrevue. Merci. Alors, je voudrais vous parler du livre « La société de provocation, essai sur l'obscénité des riches » de Dalia Namlan. Alors, ça existe, je l'ai lu, c'est super. Super mais comme information, mais comme contenu, c'est triste. Des hypermilliardaires qui détruisent presque à eux seuls la nature dont nous dépendons. C'est 1% du 1% des pires, là. Et le plus riche de tous, c'est M. Musk avec 200 milliards. Fait que par ailleurs, en fin de semaine, il y avait l'article « Le salut climatique va passer par le nucléaire selon Ottawa ». Alors, ça m'a un peu jeté sur ma chaise. Pour atteindre la carboneutralité en 2050. Je crois que c'est une erreur de penser ça. Mais néanmoins, que ce soit une erreur ou non, tu sais, quand le gouvernement canadien enclenche quelque chose, ça se fait. Hein? La participation citoyenne a peu de force jusqu'à maintenant. Fait que j'espère qu'on va... rationnellement le faire. Moi, j'ai mis un commentaire dans la presse là-dessus, là, contre. Et puis, je voudrais vous parler aussi d'un autre livre, c'est « Faire l'économie de la haine ». C'est de Alain Denoux. C'est super intéressant. J'ai pas fini. C'est un essai sur la censure. Et puis, si tout va bien, je vais l'interviewer la semaine prochaine lors de ma dernière émission de cet été, avant la prochaine, en automne prochain, probablement. Sur les Premières Nations, j'espère. Alors, je voudrais vous parler aussi de Paul Germain, « Le maire qui change le monde ». C'est un article dans la Tribune. Et puis, il fait des choses intéressantes hein, quant au recyclage, quant à la gestion des GES. Alors, c'est comme un héros municipal, Paul Germain. Allez voir ça. Le titre, c'est « Paul Germain, le maire qui change le monde ». Et puis, disons, dans ces temps de tristesse à cause des guerres, allez voir « Beau bien bon ». C'est des podcasts qui sont faits par une Elisabeth Grimaud, qui était une docteure en psychologie et linguiste. « L'instant beau bien bon », dit-elle, « c'est un podcast qui vous invite à explorer et enrichir votre vision du monde à travers les trois dimensions essentielles, le beau, le bien et le bon. Alors, le bonheur, dit-elle, peut s'exprimer avec trois mots simples, mais puissants, beau bien bon. Il propose une autre façon de percevoir le monde, par l'art de changer son regard, l'art de prendre conscience de la plénitude de l'instant et la joie de découvrir l'humanité des gens. C'est une méthode simple, agréable et très accessible pour apprendre à mieux utiliser son cerveau, identifier ses ressources de bien-être. » Alors, je calcule le temps, il me reste à peu près 2 minutes. Il y a des déversements d'eau usée de la ville dans la rivière Saint-François. La Tribune en parle. Moi, ça me fait réfléchir le fond rivière au pluriel, là. C'est un organisme qui suit de près Sherbrooke, dans ce sens-là. Et puis, il y a l'organisme aussi EAU, Au Secours, qui s'intéresse à l'eau. Moi, je pense qu'il est temps, en termes de débat, de penser des alternatives aux eaux usées dans une ville. Je sais qu'il existe des toilettes à compost qui sont modernes, technologiquement très avancées. On n'a qu'à les voir dans les vaisseaux spatiaux des astronautes. Hein. Et puis, elles sont inodores. Alors, dans les prochains schémas d'urbanisme, peut-être, plans d'urbanisme, à mon avis, on devrait penser à ça. Également, j'espère que vous savez qu'il y a un colloque sur livres et imprimés autochtones au Québec en ce moment. C'est à l'Agora de l'Université. Et demain, de 11h15 à 12h15, il y aura une auto-représentation, une transmission et communauté grand entretien avec Louis-Carl Picard-Sioui, qui sera animé par Isabella Huberman de l'Université de la Colombie-Britannique. Alors, je pense que ça sera super intéressant. J'ai regardé Louis-Carl Picard-Sioui. C'est un auteur de Wendake très épanoui, très fécond, et c'est aussi un poète. Alors, demain, allez voir ça, mais aujourd'hui, vous pouvez y aller toute la journée aussi. Finalement, bien, il existe le collectif Échec à la guerre et les artistes pour la paix. Vous pouvez aller voir ça dans Internet. Ils ont fait un très bon document sur les armes nucléaires, péril pour l'humanité. Ils sont pour le TIAN, c'est-à-dire le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et je vous annonce qu'avec deux personnes de la PAP, les artistes pour la paix, nous allons aller le 4 juin au conseil municipal demander que la ville signe un appui, un soutien au traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été signé en 2021 par 160 pays à peu près. Peut-être qu'il y a une petite erreur, là, mais en gros. Et puis, depuis ce temps-là, les armes nucléaires sont illégales. Mais on a besoin d'un appui des villes. C'est la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires qui demande ça aux villes de signer un appui. Alors, moi, je demande à Sherbrooke de le faire et avec deux autres personnes de APLP. Et puis, du livre, comment ça s'appelle? Higher Creativity en anglais, fait que Transcendentalité, je pense, c'est de Willis Harman. Il y a un chapitre sur la paix sur la Terre, c'est le rêve impossible qui devient possible. C'est super intéressant. Allez voir ça. Il y a une description de ce qu'est la non-paix. Mais la non-paix, c'est les armes conventionnelles ou les armes nucléaires. C'est aussi la dégradation de l'environnement. Et c'est aussi les tensions entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Et sûrement le manque d'équité entre les pauvres et les riches. Et puis, j'ai retrouvé un livre que j'ai... qui est super intéressant, je vous suggère d'aller voir ça, c'est de Demilitarized Society, Disarmament Conversion, c'est par Seymour Mellman. C'était un ingénieur industriel super éclairé qui parlait intellectuellement et techniquement comment faire la conversion de l'industrie militaire et des fins civiles. Alors, mon nom est Claude Saint-Georges et je vous souhaite la bienvenue à Nous le futur. On commence l'entrevue après cette publicité et à bientôt. Bonjour, presque coué. Professeur Cornette, vous étiez ici la semaine dernière à la Faculté de droit, section religion. Et puis, nous avons vu le film qui a été fait en votre honneur par Alanis Obomsawin, dont le titre est « Professeur Norman Cornette, 2. Depuis quand ressent-on l'obligation de répondre correctement au lieu de répondre honnêtement? » Donc, après, nous avons vu une partie du film, puis après ça, il y a eu une discussion. Mais est-ce que vous pourriez dire que signifie ce titre, le titre du film en question?
Oui, j'ai fait le doctorat en sciences des religions et je me suis rendu compte dans l'enseignement supérieur, donc l'enseignement post-secondaire, que les étudiantes et étudiants faisaient face à un dilemme. D'abord, il y avait la question « quelle est la bonne réponse ?» et on sous-entend par cela la réponse pour avoir la meilleure note possible, qu'on y croyait ou non qu'elle était bonne, la réponse. Mm-hmm. Et donc, il y a là des enjeux éthiques, des enjeux moraux. Et en tant que spécialiste en sciences des religions, je me suis dit, mais comment divorcer, comment dichotomiser, comment séparer la vérité de la moralité et de l'éthique. Et d'autant plus qu'on vit dans une époque, on dit depuis la décennie 1990, on parlait de la rectitude politique. Ah, mais ça, c'est tabou. Ça, il ne faut pas le dire. Ça, il ne faut pas en parler. Et là, maintenant, la situation a continué de sorte qu'on parle du wokisme. Or, il y a tellement de chasse gardée, mais comment peut-on favoriser le dialogue? D'où le titre de mon approche à l'éducation, l'approche dialogique. On dit, n'est-ce pas, de la discussion jaillit la lumière. Or, si on dit aux étudiantes et étudiants, mais ça, il faut pas chuchoter quoi que ce soit là-dessus, ça fait comme des freins. Au lieu d'inciter au dialogue et à la découverte de la vérité, du savoir et de la connaissance, on met constamment les freins. Et déjà, je me suis rendu compte que dans la salle de classe universitaire, il y a un taux très élevé d'anxiété, de stress, de nerfs, de la peur, de la crainte. Alors, quand on met toutes ces barrières-là, on ne fait qu'accentuer ce malaise foncier de l'étudiante et de l'étudiant.
Oui, j'ai vu ça souvent, ce genre de stress dans les milieux de travail, en plus de l'éducation. Alors, il faudrait les méthodes dialogiques dans les milieux de travail aussi. Mais, juste avant, vous avez déjà dit qu'il faut démystifier la matière. Par le mot matière, vouliez-vous dire le sujet d'étude ou bien les matériaux qu'on connaît? Ou
Je veux dire le sujet.
D'accord.
Et dans mon approche dialogique, comme spécialiste en sciences des religions, mais avec un regard sur les enjeux moraux, les enjeux éthiques, il y a tout l'éventail de la condition humaine auquel je m'adresse. Donc, j'ai fait des ateliers dialogiques sur l'abus domestique à l'intérieur des couples, sur l'abus sexuel envers les enfants, et même j'ai fait un atelier dialogique, une série d'ateliers avec des pédopsychiatres, avec des psychologues et des travailleurs sociaux sur l'inceste.
D'accord.
Or, c'est ça. Et je dois dire, quand on ouvre la boîte de Pandore sur un tel sujet, M. Saint-Jar, je le fais uniquement quand j'ai les meilleurs experts disponibles en chair et os. Parce qu'il ne faut pas susciter ces questions-là sans y apporter des réponses.
D'accord. Je me souviens que vous avez employé le terme « démorphologisation ». Est-ce que vous pourriez expliquer ça?
Non, c'est surtout démystifier. Et ça, je l'emprunte du théologien allemand du XXe siècle, Rudolf Bultmann, « démystifier Jésus ». Je me suis rendu compte que l'éducation supérieure, il y a de telles attentes et de telles craintes et de telles peurs que là, il faudrait qu'on se rappelle qu'on est tous, qu'on soit professeur, qu'on soit étudiante, on est tous des êtres humains. Donc, c'est le dénominateur commun, c'est le terrain d'entente. Quand on se rejoint comme être humain, eh bien là, le dialogue est possible et on peut apprendre les uns des autres.
D'accord. Pour nous aider à aller plus loin, est-ce que vous pourriez d'abord expliquer aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que c'est que votre méthode pédagogique que vous avez inventée et qui s'appelle la dialogique?
Donc, l'approche dialogique, d'abord, je dois avouer que j'ai lu, il y a un essai, une monographie publiée par le critique littéraire soviétique Mikhail Bakhtin. Donc, il parlait de l'imaginaire dialogique. C'est d'ailleurs publié chez University of Texas Press. Et cette semence de l'imaginaire dialogique est en fait l'étincelle qui m'a permis d'élaborer, de développer l'approche dialogique. Parce qu'une autre chose dont je me suis rendu compte, les êtres humains sont incroyablement doués. Or, un des plus grands dons dont jouit chaque être humain, c'est l'imaginaire. C'est l'imagination. Donc, dans quelle mesure est-ce que les études supérieures font appel, accèdent à l'imagination, à l'imaginaire. C'est un outil formidable. Et quand on intègre l'imaginaire dans l'enseignement, eh bien, ça ouvre tout grand les horizons. Tout est possible à ce moment-là. Et c'est la raison, je dois dire, que je collabore depuis 37 ans avec des artistes toutes disciplines confondues. Parce que quel est le principe opérateur des arts? Eh bien, c'est l'imaginaire, c'est l'imagination. Donc, depuis quand est-ce qu'on a évacué cette dimension primordiale de la condition humaine, évacué l'imaginaire, éviscéré l'imagination dans la salle de classe? Au contraire, il faut l'affirmer, il faut le cultiver, il faut l'encourager.
Mais justement, d'abord, vous parlez d'art et d'imagination, ces deux sujets qui s'unissent finalement. Que faites-vous pour créer un espace qui favorise la créativité et l'imagination en classe?
D'abord, il faut créer ce que j'appelle un espace éducatif non menaçant. Oui. Vous savez, Monsieur Saint-Jean, toute élève, toute étudiante a une peur bleue de poser une question stupide. Or, le principe opérateur de mon approche dialogique à l'éducation est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Parce qu'il faut vraiment encourager la curiosité, l'interrogation, le questionnement. C'est la force motrice de l'éducation.
Oui.
Donc, on doit se poser comme enseignant, comme professeur, dans ma salle de classe, dans mes cours, sur le cursus qui est le mien, et je fais place suffisante à la curiosité, au questionnement, à l'interrogation. Et surtout, est-ce que je mets les élèves, les étudiantes à l'aise? Même est-ce que je les incite, je les encourage, je les pousse à poser des questions?
Bien, personnellement, ça m'aide moi-même dans ma vie parce que je suis des cours de Tai Chi. Et là, je pose des questions qu'on croit évidente, mais le professeur dit que c'est une très bonne question. J'étais gêné de le faire et ça m'aide.
Oui.
Et puis, quelles sont les principales influences que vous reconnaissez avoir eues et intégrées pour finalement développer votre méthode? Je sais qu'il y a Merleau-Ponty, par exemple, aussi.
Oui. Je dirais que c'est ma propre expérience. Monsieur Saint-Jean, j'estime en tant que professeur que le professeur est un étudiant éternel. J'ai toujours à apprendre. Or, je pensais aux moments les plus marquants, les faits saillants de ma propre éducation. Donc, un des faits saillants, c'était de faire les sorties à des endroits historiques, dans les musées, dans les galeries. Et je me suis dit, waouh, là, c'est l'éducation sensorielle. Parce que c'est la question de la vue, c'est la question auditive, c'est la question tactile, du tangible. Donc, cette approche sensorielle fait partie intégrante de mon approche dialogique et c'est entièrement à cause de mon expérience comme enfant à l'éducation primaire. Et d'ailleurs, je dois vous dire, M. Saint-Jean, et à l'auditoire de CFAK, à AK, que pour moi, l'enjeu principal de l'éducation supérieure, y compris auprès des aînés, c'est celui-ci, d'enseigner l'enfant dans l'adulte.
Oui.
Parce que jusqu'à notre dernier souffle, au très fond de soi-même, on se perçoit comme un enfant. Or, pour l'enfant, tout est possible.
D'accord. Si on parle de Merleau-Ponty, sa phrase « une perception, une interprétation », pour vous, c'est très important. Est-ce qu'une interprétation peut conduire à une conduite différente, ou un mode de vie différent?
J'ose le croire. Ce film documentaire réalisé par Alanis Obomsawin, et c'est entièrement son initiative. C'était le résultat des préjugés, des lieux communs, de la discrimination des partis pris de la part de mes étudiantes et étudiants vis-à-vis les Premières Nations. Parce que tout le campus était entouré d'itinérants, d'itinérantes, et souvent, ils sont des Premières Nations. Alors, je me suis rendu compte que, aux yeux des étudiantes et étudiants, les gens des Premières Nations, ces individus, ces personnes sont tellement sur la marge de la société qu'à toute fin pratique, on les a écartés. Et je tenais à la rencontre en chair et os avec les gens des Premières Nations. Donc j'ai invité Alanis Obomsawin, j'ai invité Matthew Kuncom, qui était à l'époque chef de toutes les nations de l'Assemblée nationale des Premières Nations. J'ai invité des artistes, Eroma Awashish, une artiste atikamek formidable. J'ai invité l'artiste Glenna Matouche. Donc, de rencontrer ces gens, ça aussi, c'est une façon de démystifier. Il y a tellement de stéréotypes, de caricatures des Premières Nations. Mais quand vous êtes en face d'elles, d'eux, et que vous êtes en tête à tête, en face à face avec ces gens-là, encore une fois, où est-ce que vous vous rencontrez sur ce terrain d'entente de la condition humaine qui nous est commune?
Et je me souviens, la semaine dernière, vous avez dit que pour les Premières Nations, ils ont soif de beauté, d'où l'importance de l'art.
Oui, j'enseigne également sur les réserves, c'est un privilège. Les conditions sont affreuses et c'est justement de cette pauvreté aberrante sur les réserves des Premières Nations que ces gens-là tendent vers la beauté. Ces gens ont besoin, ont faim et soif de la beauté dans leur vie.
D'ailleurs, il y a un colloque le 22, 23, 24 mai sur l'écrit et l'imprimé autochtone ici à l'Université de Sherbrooke. Et je vais en profiter pour m'inspirer pour faire des émissions en septembre prochain sur les Premières Nations. Au moins 11 émissions. Là. Fait que je vais voir ce que ça va donner.
C'est parfait, ça.
D'accord. Vous reliez le pouvoir de concentration à l'expérience de l'acquisition cognitive. Parlez-nous, s'il vous plaît, professeur Cornette, de ce que c'est que le pouvoir de la concentration.
Bonne question, M. Saint-Jean, et je suis content qu'on en parle sur les ondes de CAFAK. C'est qu'au fur et à mesure, quand on regarde l'évolution technologique, les appareils à la disposition des élèves et des étudiantes, moi, j'ai vu le changement de paradigme pédagogique. L'instant que le téléphone cellulaire était abordable à tous et chacun, eh bien, le téléphone cellulaire est entré dans la salle de classe. Et là, ça a attiré toute l'attention. Mais qui m'appelle? Pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est ma copine, mon copain? Alors, ça devenait une distraction. Oh, de sorte que ponctuellement, régulièrement, chaque cours, les étudiants se levaient, quittaient la classe, et puis là, on les entendait parler au téléphone cellulaire, au seuil de la salle de classe. Donc, comment construire un esprit de corps quand il y a tellement de distractions? Or, ça, c'était uniquement le téléphone cellulaire. Ensuite, c'était l'ordi portatif. Et je suis complètement pour la technologie moderne, ultra-moderne même. Mais au bon moment, au bon endroit. Or, quand on avait les ordi portatifs, tout le monde levait le couvercle des ordi et au lieu de favoriser le dialogue, ça devenait autant de murs, de séparation entre eux, entre elles, entre les étudiantes et moi. Or, là, c'était une autre distraction. On ne peut point apprendre sans la concentration. Mmh. Il faut savoir fixer l'objectif et le garder le cap. C'est le nerf de la l'acquisition cognitive. C'est l'expression technique d'apprendre ou de l'apprentissage.
D'accord.
Donc, c'est devenu un principe opérateur, et c'est encore le cas quand je présente des ateliers dialogiques, comme je vais faire à la fin du mois, ici. Donc, on laisse tous les appareils, les téléphones cellulaires, les ordi portatifs, tout cela. Et on n'a même pas soulevé la question des médias sociaux. Et on sait par les études neurologiques, Monsieur Saint-Jard, qu'on peut devenir accro à ces appareils, au téléphone cellulaire, en point tel que on éprouve un malaise de ne pas avoir notre téléphone cellulaire, de ne pas avoir notre ordi. Donc, et on le sait avec les jeux vidéo aussi. Donc, il faut apprendre cette discipline de la concentration, de fixer l'objectif et d'outrepasser ce malaise de ne pas avoir mon appareil tout près de moi. Et vous comme moi, je vois bien des gens autour de moi les yeux rivés sur le petit écran du iPhone. Mais le monde est tellement plus grand que ce petit écran du iPhone.
Oui, c'est vrai. Vous parliez d'esprit de corps. Vous dites aussi que pour apprendre, il faut le faire en communauté. La communauté, voilà. C'est important. Voilà. Oui.
Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine pensée qui veut instaurer la concurrence. Mm-hmm. Sinon, la survivance. C'est une question de survie. Il faut que je sois meilleur que l'autre.
Okay.
La performance individuelle l'emporte surtout. Or, on apprend en dialogue les uns avec les autres. Donc, j'oppose, si vous voulez, à cette concurrence, à cette performance individuelle, j'y oppose l'esprit de corps qu'on apprend en communauté et que là, on apprend les uns des autres. Au lieu que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit thèse ou antithèse, ça devient une synthèse et une synthèse collective. C'est qu'on apprend tous les uns des autres. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le professeur a autant à apprendre des étudiantes et étudiants que elles, ils ont d'apprendre de lui ou d'elle.
J'ai à la fois des questions profondes et des questions techniques. Par exemple, une question profonde, c'est qu'est-ce que vous faites pour susciter l'émerveillement, que vous trouvez ça important, l'émerveillement?
Ah oui, c'est une bonne question, M. Saint-Jean. Merci. De leur mettre devant ce que la vie peut être. C'est très difficile, surtout ces jours-ci, avec la guerre en Ukraine, Gaza, les changements climatiques, avec l'inflation. On peut vraiment se déprimer. Or, plutôt, et ça je l'ai bien vu avec les changements climatiques, donc je présentais des questions écologiques de l'environnement, et je me suis dit, si je leur lance toutes les statistiques, ils vont se déprimer. Mmh. Alors, comment pourrais-je leur donner un rêve à réaliser? Mmh. Et croyez-le ou non, M. Saint-Jard, je leur ai présenté les films animés de Frédéric Bach.
Okay.
L'homme qui plantait les arbres, ou encore qui a gagné l'Oscar, ou encore Le Grand Fleuve sur le Saint-Laurent, qui était en lice également pour l'Oscar. Mine de rien, à chaque fois, j'ai invité Frédéric Bach et il est venu dans la salle de classe. Et vous savez, quand les étudiantes et étudiants étaient en face de Frédéric Bach avec cette vision d'un fleuve comme le Saint-Laurent pollué au plus haut degré, mais qu'il y avait moyen de restaurer pour que ça devienne un fleuve limpide, ça leur a communiqué une vision encourageante, positive, plutôt que de se laisser aller. Ah, mais il n'y a rien à faire. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pour Frédéric Bach, réaliser ses films, c'était sa façon de contribuer positivement à la question de l'environnement, au changement climatique. Or, c'était... Je suis toujours en contact avec mes étudiants et étudiantes qui sont devenus cinéastes. Et il était une source d'inspiration. Or, pour répondre à votre question, l'émerveillement vient avec l'inspiration. Mm-hmm. Alors, inspirez vos étudiantes et vos étudiants. Et ça change la donne.
OK. Inspiration me fait penser à souffle et à esprit. Et je me souviens que vous disiez que la musique est le seul art qui rejoint les deux cerveaux.
C'est cela, parce que la musique est basée sur les mathématiques, dont un hémisphère du cerveau humain, mais la musique est également basée sur la créativité, sur l'imagination, sur l'imaginaire. Donc c'est cette fusion de logique et de créativité qui fait que la musique est un moyen incroyable. C'est incroyablement spirituel parce que la musique, elle n'est pas tangible. La musique n'est pas matérielle. C'est invisible, c'est intangible. Mm-hmm. Et tout cela fait que souvent, pour des gens, c'est un phénomène spirituel dans le sens large. Et quand je dis spirituel, mon approche dialogique en tant que spécialiste en sciences des religions, je fais une distinction nette et claire entre religion et spiritualité.
Oui.
Pour moi, religion implique doctrine, dogme, hiérarchie, autorité. Donc, il y a cela. Mm-hmm. La spiritualité rejoint le tréfonds de la condition humaine. Et c'est une des raisons que je collabore depuis 37 ans avec des artistes toutes disciplines confondues. Vous savez, M. Saint-Jean, quand j'entre dans l'atelier d'une artiste, c'est comme entrer dans le lieu très saint, un lieu sacré. Cet espace où l'artiste communique avec soi-même sur les enjeux qui lui importe et que l'artiste est mis à nu devant l'existence,
oui,
la sienne.
Les Québécois sont des champions de la religion dans un passé proche, religion qu'ils ont rejetée tout d'un coup, mais je pense que la spiritualité n'est pas au rendez-vous en ce moment. Et comment la faire renaître, la saine spiritualité au Québec, d'après vous? C'est par là.
Peut-être que la religion, les religions sont... c'est vrai que depuis la révolution tranquille des années 1960, on a quitté les religions traditionnelles, spécifiquement chrétiennes, voire l'Église catholique romaine. Ceci dit, je vois énormément d'intérêt dans la spiritualité. Mais la spiritualité prend beaucoup de formes différentes. Je connais des gens, y compris des professeurs, que faire yoga, c'est un exercice spirituel.
Oui.
La méditation, c'est un exercice spirituel parce que c'est aller au-delà de la réalité matérielle de la condition humaine et d'explorer toute la dimension affective,
oui,
cognitive et autres.
D'accord. Donc, professeur Cornette, la dialogique, elle peut conduire à un changement de mode de vie, si on voit là, ce que vous dites.
Mais ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est de voir que quand mes étudiantes et étudiants ont rencontré en personne des gens des Premières Nations, c'était tout autre. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné à l'Université de Sherbrooke la semaine dernière, les étudiantes et étudiants avaient toutes sortes d'idées vis-à-vis les élus. Entre autres, mes étudiantes et étudiants qui venaient d'ailleurs au Canada et qui n'étaient pas de Montréal, du Québec, quand ils ont rencontré Lucien Bouchard en personne, eh bien, eux à qui on a dit que c'est un séparatiste, c'est mauvais, c'est méchant, mais quand ils l'ont rencontré en personne, et d'ailleurs on le voit dans le film d'Alanis Obomsawin, il a démystifié tout ce courant indépendantiste dans l'histoire du Canada français, du Québec. C'était la même chose avec le docteur Jacques Parizeau qui était mon invité. Oh, c'était le diable incarné aux yeux des étudiantes et étudiants qui venaient d'ailleurs. Mais quand il, et un homme hautement cultivé, quand ils l'ont rencontré et qu'il leur posait toutes les questions, parce qu'il n'y avait aucune censure, eh bien, ça a démystifié ce que c'est l'indépendance, la souveraineté, tout ce pan politique de l'histoire du Canada français et du Québec. Mais, j'ai mentionné d'ailleurs à l'Université de Sherbrooke, j'ai invité Preston Manning, qui était lui le cofondateur du parti Reform. Eh bien, lui, c'est un homme profondément spirituel. Vous n'avez que lire ses livres. Mais aussi engagé en politique. Mais les étudiantes étaient prêtes vraiment à le dépecer. Parce qu'il le voyait comme ultra-conservateur contre tout ce qui est moderne, tout ce qui est progressif, tout ce qui est libéral. Mais j'ai invité Preston Manning ainsi que son épouse. On est en dialogue, en face à face, en tête à tête avec eux. Et ça a démystifié. Vous savez qu'il faut humaniser, personnaliser, voire individualiser l'éducation. Il ne suffit pas de présenter un livre sur l'histoire de la politique au Québec ou l'histoire des conservateurs au Canada. Il faut les rencontrer en personne.
D'accord. Et à propos d'individualiser l'éducation, en neuropédagogie, avant que j'entende parler de la dialogique, j'entendais parler de 4 aspects de la neuropédagogie. C'était apprendre à apprendre, apprendre à penser, augmenter l'efficience cognitive et les sortes d'intelligence. Enseigner en fonction des quelques 10 sortes d'intelligence qu'il y a. Là. Comment vous vous situez par rapport à ces 4 aspects?
Merci d'avoir soulevé. Mais là, vous venez d'expliquer pourquoi mon approche dialogique est foncièrement sensorielle, parce que je me suis rendu compte qu'il y a chaque étudiant a un sens privilégié pour apprendre. Pour quelques étudiants et étudiants, c'est la vue. Ça explique pourquoi j'invitais des artistes, des peintres, que j'invitais des sculpteurs, que j'invitais des cinéastes. Ça, c'est l'aspect visuel. Mais d'autres étudiants et étudiantes apprennent surtout par la dimension auditive. Donc, j'ai invité des compositeurs, des musiciens, entre autres, Suzy Leblanc, la soprano, qui est merveilleuse.
Excusez-moi, le professeur de jazz de Harvard, récemment, vous avez fait un atelier avec lui?
Oui, le professeur V.J. Iyer de l'Université Harvard, que j'ai invité aussi. Donc, mais il y en a d'autres qui sont, croyez-le ou non, olfactifs. Oh. Donc, vous savez, le sens de l'odorat, c'est le deuxième plus fort sens dans le cerveau humain. Donc, j'ai collaboré avec un artiste qui, lui, a recréé les odeurs de la Nouvelle-France du 16e siècle. Oh. Parce qu'on sait que l'être humain, pour reconnaître une odeur, qu'il ou elle n'a pas senti depuis 50 ans et tout de même l'identifier. Donc, je collabore avec toute la panoplie sensorielle de la condition humaine. Et ça explique pourquoi tout c'est... Et il y en a d'autres, c'est la lecture. Donc, j'invitais les poètes, les romanciers, romancières, Pierre Neveu, entre autres. J'ai fait un atelier idéologique avec Pierre Neveu, qui est un écrivain maintes fois primé, avec Nicole Brossard, également poète parmi les plus grandes au Canada, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas se limiter à la lecture d'un texte et de l'apprendre par cœur et de le répéter lors d'un examen. Il faut ouvrir tout grand, tous les moyens à notre disposition pour favoriser l'acquisition cognitive. Et ça passe par les sens.
D'accord. Professeur Cornette, vous avez dit la semaine dernière qu'il faut faire des cadeaux aux étudiants, aux étudiantes. Par exemple, la confiance en soi. Il y en a deux, trois autres. Quels sont-ils, ces cadeaux-là?
Oui, je dis que le défi pour l'enseignante ou ou la professeure, c'est d'aider l'élève, l'étudiante, à trouver leur voie, dans deux sens. Leur voie, V-O-I-X, que c'est pas de la répétition des autres, mais d'articuler leur propre pensée dans leurs propres mots. Et c'est la raison que il n'y a pas de censure. C'est l'écriture automatique, selon André Breton, moi je préfère l'expression l'écriture intuitive, mais aussi à leur aider à trouver leur voie, V-O-I-E. Pourquoi est-ce que j'invitais un juge de la Cour suprême du Canada, l'honorable Charles Gontier? Parce que je savais très bien qu'il y avait des étudiantes et étudiants qui voulaient aller en droit, faire les études à la faculté de droit.
Okay.
Et pourquoi j'ai invité des médecins chevronné comme le docteur Ivan Mendez, qui est un neurologue de renom international, parce que je savais que j'avais des étudiantes et étudiants qui voulaient aller en médecine. Et d'autres, j'ai invité des hommes d'affaires. Donc, j'ai invité Jake Eberts, un des plus grands producteurs hollywoodiens, qui a réalisé les plus grands films, Dances with Wolves, Driving Miss Daisy, A River Runs Through It, ainsi de suite, il a gagné plus que 30 Oscars. Mais il faut garder en tête que l'argent est vraiment nécessaire pour pratiquer les arts, y compris l'art du cinéma. Donc, je tenais à inviter les personnes en affaires parce que je savais qu'il y avait des étudiantes et étudiants qui allaient se lancer. Et replaçons-nous dans les années 90. C'était avant qu'on parle des start-up.
Oui.
Et c'était absolument essentiel que les étudiantes et étudiants voient d'exemple. Jake Eberts était un prémisse de ce qu'on appelle maintenant l'entrepreneur start-up.
Le travail manuel, est-ce qu'il est valorisé dans votre optique? Je pense par exemple à Philip Glass, le pianiste qui a été plombier. Et puis...
Et compositeur, grand compositeur.
Ouais, c'est ça, oui. Puis aussi...
Merci d'avoir posé la question. J'ai invité le chef, un dentiste, croyez-le ou non, un dentiste, mais qui a fait une réputation incroyable en tant que sculpteur, parce que vous savez, quand vous êtes dans la bouche, dans les dents, vous devez les remodeler, vous devez les créer de toutes pièces. Je voulais qu'il voie que d'être dentiste, et d'ailleurs j'ai au moins deux étudiants qui sont devenus dentistes maintenant, mais c'est très pratico-pratique, c'est très concret, c'est très tangible aussi, ça sort pas de rien. D'ailleurs, tous ces gens-là que mes étudiants et étudiantes ont rencontrés, entre autres le premier ministre du Canada, le très honorable Paul Martin, je voulais qu'ils démystifier ces gens-là. Personne commence au Louvre. On commence tout chez soi, que ce soit qu'on devient un multimillionnaire comme Jake Edwards, on commence de zéro.
Oui.
Et on construit avec ce qu'on a à notre disposition.
D'accord. Vous avez dit la semaine dernière, professeur Cornette, aussi que la franchise, c'est la pierre de touche de l'éducation. Est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose à ça? Ou c'est pas nécessaire?
Oui. Ouais, non, je vais y répondre et je vous remercie de la question. Moi, j'avais un dilemme moral et éthique. Je me suis posé la question, dans quelle mesure est-ce que je favorise le mensonge qui suffit de répéter ce que le prof veut entendre pour avoir les bonnes notes.
D'accord.
Et pour moi, ça, et d'ailleurs, c'est un dilemme qu'on doit se poser. Est-ce que là, je communique aux étudiantes et étudiants la vérité, la véracité, la franchise est nulle. Ça ne vous gagne rien au point de vue de notes, de diplômes, d'avancement dans votre carrière.
Oui.
Mais comment vivre avec soi-même sans cette franchise foncière?
Mm-hmm. Oui, ça me rappelle un cours d'économie que j'ai suivi avec des amis en service social, en économie. Alors, nous étions tous révoltés de la loi de l'offre et de la demande parce que pour avoir des prix élevés de nourriture, il fallait en jeter. Fait que, tu sais, pour avoir ton diplôme, il faut que tu connaisses la loi de l'offre et de la demande. Cependant, pour une bonne offre avec un bon prix, il faut jeter de la nourriture. Ça, c'était révoltant, en tout cas. Fait que, vous devez motiver les gens pour qu'ils soient attirés au savoir, aux connaissances, à la vérité. Est-ce que vous avez des intuitions spéciales pour comment motiver?
La surprise était... Ne sous-estimez jamais l'élément de la surprise. Comme on le voit dans le film d'Alanis Obomsawin, mes étudiantes et étudiantes ne savaient rien. Où est-ce qu'on va avec ça? Tantôt, on est dans une exposition, dans une maison de culture. Tantôt, on lit des textes sur les soins palliatifs. Tantôt, on écoute la musique. Et ils ne savaient jamais que le Premier ministre du Canada allait entrer dans la salle de classe. Ils ne savaient jamais qu'une grande musicienne, chanteuse, soprano comme Suzy Leblanc allait entrer dans la salle de classe. Donc, c'était... L'attente était continue. Mais qui va entrer dans la salle de classe aujourd'hui?
Mmh.
Et pourquoi est-ce qu'on fait ça?
D'accord.
Et le dénouement venait toujours plus tard. Donc, ils étaient toujours en attente. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui est-ce qu'on va découvrir? Qui est-ce qu'on va rencontrer aujourd'hui?
D'accord. J'ai le double de questions, mais c'est pour peut-être la semaine prochaine, en tout cas. Mais puis par ailleurs, il faudra mettre un petit peu de publicité puis de la musique. Donc, il reste à peine quelques minutes. J'ai quand même une couple de questions profondes. Il faudrait répondre en peu de temps. Vous prenez une renaissance de l'éducation. Quelle est l'image pour vous de cette renaissance? Puis aussi, vous parlez de longue durée pour la permanence de l'humanité. Alors...
Oui. Alors... Au point de vue de la Renaissance, je soulève ce personnage incontournable de la Renaissance, donc Leonardo da Vinci. J'ai constaté en tant que professeur qu'il y avait un divorce entre les sciences et les arts.
Oui.
Or, lors de la Renaissance et dans la personne de cet artiste, de ce chercheur par excellence, Leonardo da Vinci, il n'en était rien. Les arts et les sciences allaient de pair. Donc, pour moi, il faut vraiment promouvoir un dialogue entre les arts et les sciences. Et d'ailleurs, j'ai invité des scientifiques aussi, parce que comment vivre en 2024 sans une connaissance des sciences et de la technologie?
Mmh, mmh.
Et Ça, c'est une chose. Et la deuxième question, M. Saint-Jean, pourriez-vous me le rappeler?
L'histoire de la longue durée pour nous aider à...
La longue durée.
La permanence
de l'humanité. Oui, merci de l'avoir soulevé. Vous savez, M. Saint-Jean, moi, je n'enseigne pas pour un quiz, je n'enseigne pas pour un examen, je n'enseigne pas pour une note, je n'enseigne pas pour un diplôme, j'enseigne pour la vie. D'accord. Que l'étudiant soit bien équipé pour la vie. Ça, M. Saint-Jean, c'est la longue durée.
Bien, félicitations. Je vous remercie beaucoup, Dr. Cornette. Malheureusement, on doit terminer l'entrevue avec ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Et puis
merci
peut-être...
à vous, M. Saint-Jean.
Alors, ici Claude à nous le futur. C'était le professeur Norman R. Cornette. Si vous voulez voir le film, vous pouvez aller voir à l'Office national du film. Le titre, c'est « Professeur Norman Cornette, depuis quand ressent-on l'obligation de répondre correctement au lieu de répondre honnêtement? » Et dans la description, là, un descriptif du documentaire, c'est vraiment intéressant. C'est 200 mots à peu près. Là. Allez lire ça. Ça explique tout. Alors, il m'avait demandé de la musique que je vous la donne. Et je vous dis bonjour. Portez-vous bien.